Bonjour à tous. L'intervention d'un tiers n'est plus exclue dans la mort du petit Émile selon les dernières expertises. Une affirmation possible ce midi suite à la conférence de presse de Jean-Luc Blachon. Le procureur de la République d'Aix-en-Provence a livré de nouveaux éléments après la fin des gardes à vue pour quatre membres de la famille d'Émile Soleil, décédés en juillet 2023. Le footballeur de Manosque condamné à 9 mois de prison ferme, les magistrats l'ont reconnu coupable de violence avec usage ou menace d'une arme lors d'une manifestation sportive. Il était monté en tribune dimanche avec un couteau suite à son expulsion par l'arbitre lors du match Briançon-Manosque. C'était à l'Argentière l'ABC. Le parquet avait requis un an ferme. L'école de la Pépinière à Gap, la plus polluée aux particules fines de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est ce qui ressort de l'enquête Respire. Elle s'est penchée sur les niveaux de pollution autour de 2763 établissements entre 2012 et 2023. La maison familiale rurale de Château-Arnoux-Saint-Auban et Provence-Alpes Agglomération s'associent à un partenariat pour développer les formations à destination des élèves, des aidants et du personnel de l'aide à la personne. Il permet de mettre en place 6 demi-journées de découverte pour l'année scolaire en cours. Et puis 2 tableaux de Claude Monet à découvrir à Digne-les-Bains, ce qui est plutôt exceptionnel pour le musée de la ville basalpine. La toile impressionniste Gare Saint-Lazare de 1877 s'y trouve. L'affaire du petit Émile, les expertises introduisent la probabilité de l'intervention d'un tiers dans la disparition et la mort d'Émile Soleil. Ce sont les mots du procureur de la République d'Aix-en-Provence. Jean-Luc Blachon donnait une conférence de presse ce matin à 10h30, une conférence de presse suite à la fin des 4 gardes à vue cette nuit des grands-parents d'un oncle et d'une tante d'Émile Soleil. Anne et Philippe Vedovini sont sortis respectivement à 3h et 4h45 cette nuit. Ils ont regagné leur domicile. C'était les premières gardes à vue dans le cadre de l'enquête sur la mort du petit Émile, survenue le 8 juillet 2023 sur le hameau du Auvernais dans les Alpes de Haute-Provence. Cyrielle Cavamichard était à cette conférence de presse.
Devant la presse ce jeudi matin au sein du tribunal d'Aix-en-Provence, le procureur Jean-Luc Blachon ainsi que le colonel Christophe Berthelin, commandant de la section de recherche de Marseille. Une conférence qui s'est tout d'abord ouverte sur un récapitulatif de la chronologie des faits et du travail des enquêteurs depuis le 8 juillet 2023, date de la disparition du petit garçon de 2 ans et demi, Émile Soleil.
Nous avons travaillé sur 3141 signalements que nous avons tous vérifiés. Nous avons procédé à 287 auditions de témoins, donc 4 gardes à vue. Et 27 véhicules ont fait l'objet d'analyses en matière de police technique et scientifique. Nous avons procédé à 50 perquisitions judiciaires, 38 perquisitions numériques. 426 000 véhicules ont été détectés aux environs, entrée et sortie de véhicules aux environs même du Auvernais. Nous avons ratissé près de 285 hectares dans le cadre d'une recherche judiciaire. Nous avons pu entrer en base 7 405 entités dans nos bases d'analyse criminelle. Et nous traitons 55 millions de données de communication actuellement. Nous avons toujours 20 teraoctets qui sont en cours d'analyse. Voilà une petite idée du travail que nous faisons.
Et pratiquement après 2 ans d'enquête, ce placement en garde à vue survenu mardi matin, placement en garde à vue des 4 membres de la famille, tout d'abord les grands-parents, Philippe et Anne Vedovini, ainsi que 2 de leurs enfants majeurs. Après 46 heures de garde à vue et des auditions, ils ont finalement été relâchés dans la nuit, sans charge. Pourtant, les chefs de cette garde à vue ne sont pas anodins. On parle d'homicide volontaire et de recel de cadavres. Si le procureur Jean-Luc Blachon ne veut pas certifier l'intervention d'un tiers dans la mort de l'enfant, les dernières analyses permettent toutefois de confirmer que les ossements ont bel et bien été déplacés.
Après la découverte des ossements et des vêtements, les magistrats instructeurs ont ordonné plus de 60 missions d'expertise. Les conclusions de ces expertises réalisées sur une durée de plusieurs mois, permettent désormais de considérer que les vêtements et les ossements retrouvés ont été transportés et déposés peu de temps avant leur découverte. Permettent aussi d'affirmer que le corps de l'enfant ne s'est pas décomposé dans les vêtements retrouvés dans la forêt. Permettent de considérer l'hypothèse que le corps n'est pas demeuré au même endroit et dans le même biotope au cours du processus de décomposition et qu'il n'a pas été enfoui.
Autre point, le crâne d'Émile Soleil, il présente des traces, des stigmates, ce sont les mots du procureur Jean-Luc Blachon, qui font pencher l'enquête vers l'intervention d'un tiers dans sa mort.
La présence sur le crâne découvert de stigmates anatomiques, évocateurs d'un traumatisme facial violent. Vous aurez compris donc que les expertises introduisent la probabilité de l'intervention d'un tiers dans la disparition et la mort d'Émile Soleil.
Quant à la piste familiale, elle n'est pas encore refermée malgré la fin de ses gardes à vue. D'autres témoins ont également été entendus depuis. Quant à la voiture de Philippe Vedovini, le grand-père, et la remorque à chevaux saisie au domicile des grands-parents à la Bouilladise dans les Bouches-du-Rhône, ils sont toujours en cours d'analyse.
L'enquête se poursuit donc pour les juges en charge de découvrir ce qu'il est arrivé à Émile Soleil. 9 mois ferme pour le footballeur de Manosque. Une peine décidée hier par les juges pour cet homme de 23 ans qui avait brandi un couteau en tribune après avoir été exclu. C'était à l'Argentière, l'ABC, dimanche lors du match Briançon-Manosque. Il a été reconnu coupable de violence avec usage ou menace d'une arme lors d'une manifestation sportive. Sa peine a fait l'objet d'un mandat de dépôt. Il a été incarcéré suite à l'audience. Les juges complètent cet emprisonnement par plusieurs peines, à savoir l'interdiction de détenir une arme pendant 10 ans, l'interdiction de séjourner dans les Hautes-Alpes pendant 2 ans et de pénétrer dans une enceinte sportive pendant 5 ans. La procureure de la République de Gap avait requis un an ferme à son encontre. En bref, 2 skieurs épuisés et embarrés pris en charge par le PGHM de Briançon hier. Les 2 hommes de 27 et 50 ans évoluaient sur le secteur du showroom olympique dans le Dévoluy. Les victimes qui n'étaient pas blessées ont été élitreillées et déposées enfin à leur véhicule. Nos écoles sont polluées, c'est ce qui ressort d'une étude de l'association Respire sur la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle s'est penchée sur les 2763 établissements entre 2012 et 2023. Les niveaux de pollution aux abords de chacun d'entre eux y ont été étudiés et ont été comparés aux recommandations de l'ARS sur les seuils d'exposition à la pollution de l'air. Aurore Valory.
Et la situation est alarmante dans la région selon l'association qui tire la sonnette d'alarme dans son rapport. En 2023, 98% des établissements dépassent les seuils de recommandation de l'OMS sur les particules fines, soit le polluant le plus dangereux pour la santé humaine. 59% des établissements connaissent des dépassements pour le dioxyde d'azote. Du côté de l'exposition aux particules, elle s'améliore en 11 ans, alors que 99% des établissements dépassaient à l'époque les recommandations de l'OMS. Ce sont désormais 72% qui sont concernés. Si les villes de la région sont plus exposées par des niveaux de pollution préoccupants, la situation est contrastée. Ainsi, l'association souligne dans son étude que la part de pollution au dioxyde d'azote a significativement diminué à Gap.
Mais la ville-préfecture des Hautes-Alpes ainsi que la commune d'Avignon dans le Vaucluse voient leur niveau de pollution aux particules fines en 2023 rester similaire à 2012.
Les concentrations moyennes se situent 2 fois au-dessus du seuil de recommandation de l'OMS et c'est l'école primaire de la Pépinière à Gap qui monte tristement sur la première marche du podium avec une qualité de l'air mauvaise selon l'association. En 2023, elle est l'école en région la plus polluée aux particules fines selon cette étude sur les 2763 qui ont été passés au crible. C'est aussi le 2e établissement le plus pollué aux particules. L'association qui rappelle qu'un environnement pollué, c'est plus de problèmes de santé pour les enfants, avec un risque accru de maladies respiratoires chroniques comme l'asthme, mais aussi d'allergies, de pneumopathie, d'otite, voire de leucémie.
Merci Aurore. Notez que dans les Hautes-Alpes, outre Gap, la qualité de l'air est considérée comme mauvaise pour les particules fines dans plusieurs écoles du territoire. Vous pouvez retrouver le détail sur alpe1.com. Aucun établissement n'est concerné par une qualité de l'air mauvaise pour les particules fines dans les Alpes de Haute-Provence. C'est toujours le même refrain pour les urgences de Manosque. Elles seront fermées la nuit jusqu'au 7 avril inclus. Annonce faite hier par la direction du centre hospitalier intercommunal de la cité Jean Giono. Sur la période, le SMUR qui assure les urgences vitales est maintenu 24 heures sur 24, tout comme l'accueil des femmes enceintes. Le service reste accessible en journée entre 8h30 et 18h30. Il est recommandé de faire le 15 pour bénéficier de la meilleure orientation. Et puis on reste sur le domaine des urgences, mais cette fois assisteront, elles ferment à partir de ce soir à l'accueil pour tous jusqu'à samedi matin 8h30. Le Chicas 05 demande aux patients de contacter le 15 pour bénéficier de la régulation, soit vers les urgences, soit vers la médecine de ville, soit pour obtenir un conseil médical. Le SMUR, dont la préservation constitue une priorité absolue selon le Chicas 05, reste assuré sur la période pour la prise en charge des urgences vitales. Pour le service de Sisteron, 8 fermetures de nuit et 5 de jour ont été décomptées ce mois-ci. Convergence Urgence Santé 04 organise une conférence sur la santé dans le département à Manosque ce soir. Plus d'informations sur notre site internet. Pour développer des formations à destination des aidants, des élèves et du personnel de l'aide à la personne, Provence-Alpes Agglomération et la maison familiale rurale de Château-Arnoux-Saint-Auban s'associent. Pour cela, ce sont les équipements de l'atelier 7.7 à Digne-les-Bains qui sont mis à disposition. Ce Living Lab comprend un appartement témoin qui est dédié à la sensibilisation au maintien à domicile et à la prévention des risques. Un appartement considéré comme un tiers-lieu en innovation santé. Il permet de montrer les gestes professionnels qui peuvent être donnés par les aides à domicile. Ce mardi, une convention de partenariat a été signée. Elle permet de mettre en place 6 demi-journées de découverte pour l'année scolaire en cours. Une convention qui devrait être renouvelée. Écoutez, Lucie Michel, chargée de mission territoire de pleine santé à Provence-Alpes Agglomération.
Pour les élèves, déjà, c'est l'occasion pour eux de découvrir des équipements qui ne sont pas partout à domicile encore. Donc là, il y a de nombreux équipements dans l'appartement. Il n'y a pas beaucoup de lieux sur notre territoire où on peut vraiment les voir, les utiliser. Donc c'est vraiment hyper riche pour eux de découvrir ces équipements. En plus, c'est pas des équipements mis n'importe comment, c'est qu'ils ont été vraiment pensés. Enfin, l'appartement a été pensé par une ergothérapeute, par des jeunes en formation domotique. Donc des équipements qui sont positionnés au bon endroit dans un appartement qui est conçu pour le maintien à domicile. Et donc après, ils peuvent évidemment avoir des moments de pratique avec les équipements, ce qui est super dans une formation qui se veut aussi très pratique. Et pour les aidants et pour les professionnels, donc on a pensé cette dernière session d'atelier avec eux pour qu'ils puissent en fait aujourd'hui travailler en intergénérationnalité avec ces jeunes. Et puis aussi grâce aux petites capsules vidéo qui ont été réalisées, on va pouvoir les disséminer un peu partout auprès des acteurs du maintien à domicile et faire par ce biais-là de la formation en fait indirecte.
Des propos recueillis par notre correspondant Michel Bonnefoy. Notez que Provence-Alpes Agglomération met à disposition son atelier 7.7 pour le projet. À Digne-les-Bains, toujours, il est possible de voir des tableaux de Claude Monet, ce qui est plutôt exceptionnel pour le musée de la ville basalpine. 2 œuvres sont présentées aux visiteurs. Il s'agit de la gare Saint-Lazare, toile impressionniste de 1877 et de Journée de décembre d'Albert Edelfelt, peinte en 1880. Des travaux connus mondialement et qui ont été prêtés gracieusement par le musée d'Orsay à Paris. Et puis enfin, en direction Manosque avec le programme de musique entièrement dévoilé. L'événement musical doit se tenir entre le 18 et le 22 juillet prochain au parc de Drouille. Kinvé est annoncé en ouverture. Doivent ensuite se produire le chanteur algérien Soul King le 19, Pascal Obispo le 20, avant de laisser sa place sur scène le lendemain au trio musical féminin L.E.J. Le rappeur marseillais Soso Maness est annoncé, lui, en clôture de l'événement.
Retrouvez, réagissez à l'actualité des Alpes du Sud à tout moment sur les réseaux sociaux.